de Brégand, le rendez-vous livre jeunesse avec Lisa Bienvenue. Et voilà Plume de Brigand qui arrive avec une excitation qui est à son comble aujourd'hui. Ça, on ne peut pas le cacher. Hein. C'est un petit peu le dernier moment qui va nous révéler d'autres aventures, tout en histoire, avant ce jour de Noël. Et pour cela, Lisa sera d'un grand, pas un grand secours, mais en tout cas d'une belle proposition. Bonjour Lisa.
Bonjour Patrice, bonjour à tous. J'ai les plumes qui volent. Hein.
On va voler avec des histoires qui vont évoquer, je pense, à chacune et chacun, quelle que soit la génération, forcément quelque chose.
Oui, des grands textes, voilà. Des grands classiques, des contes, des belles histoires dans le sens où ce sont des histoires qui nous dépassent et qui nous transcendent complètement. Parce qu'elles sont pas belles, c'est pas cuicui les petits oiseaux, hein. Loin de là. Mais en général, ces histoires-là, elles restent pas imprimées. C'est les histoires pleines de subtilité, de dualité qui restent.
Donc des classiques avec tout le côté un peu initial, enfin on peut dire d'origine, qui est peut-être plus à jour que dans les autres versions, parfois Walt Disney qui donnait un côté un peu lycée, un petit peu joyeux, mais là c'est vraiment l'histoire originale qui n'est pas forcément drôle.
Non, ce sont les textes, alors en tout cas pour le premier là que je vais lire, c'est une création à partir d'un qui nous fera penser à un conte, mais voilà. pour on va dire les titres, hein, pour L'Appel de la forêt et pour Peter Pan, ce sont les textes donc de Jack London pour L'Appel de la forêt et James Matthew Barry pour Peter Pan, donc textes intégraux, pas originaux parce qu'ils sont traduits. Mais avec quand même une langue d'époque, donc pas forcément évidente. Et puis des textes d'époque, donc qui racontent toute une époque, tout un cadre social, toute une histoire. Donc ce qui est à la fois surprenant et pas surprenant, c'est que ces histoires qui sont finalement en fait très attachées à une époque, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous paraître désuètes, elles transcendent le temps et elles nous parlent encore très très fortement aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, il me semble que c'est pour ça que ça dure. Donc, il y a des choses qui sont merveilleuses hein, dans ces textes, mais il y a beaucoup de dualité, il y a de la cruauté, il y a de la violence, il y a tout ça.
C'est pas forcément les héros qui sont les plus doux non plus.
Et non, en tout cas pour, on va parler de Peter Pan là.
Oui, notamment. Hein, on pense effectivement à Peter Pan.
Ouais, on va parler de Peter Pan. Ce personnage qui est si joli dans la version, je pense qu'on est tous à connaître et dans laquelle on est beaucoup à être entré dans l'histoire de Peter Pan avec Walt Disney qui a fait un boulot fabuleux pour donner à connaître ces histoires. Mais du coup, dans le Walt Disney, il y a uniquement le côté merveilleux et très joli qui ressort avec une dualité très 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 scindée, les bons d'un côté, donc Peter Pan et les enfants d'un côté, et le capitaine Crochet qui est le vrai méchant de l'autre. Or, dans le texte original et dans les images aussi, on pourrait en dire deux mots, les personnages qui sont... Peter Pan est un personnage qui est, moi je trouve, qui a des côtés odieux. C'est l'enfance dans tous ses travers, donc il y a un côté parfois très naïf. Il oublie tout régulièrement, mais du coup il oublie des choses très très importantes. Et puis parfois il est animé par une espèce de rancœur, un désir de vengeance qui est assez terrible. Il est seul en fait, il est profondément seul, mais enfin il est seul dans sa tête, même s'il est très très entouré par tous les enfants sur l'île perdue, mais c'est un enfant perdu.
Il est très capricieux.
Il est capricieux. Moi, il me semble qu'il est capricieux parce qu'il lui manque le premier baiser de sa mère à la naissance. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ce qu'il cherche tout le temps. Il cherche ce premier baiser. C'est pour ça qu'il ne veut pas grandir. Alors après, il y a des versions... Il y a une version très, très glauque aussi de Peter Pan en BD par Loisel qui est sortie. C'est vraiment pour adultes. Hein.
Alors, celle que vous nous présentez, c'est un beau livre, assez massif.
Oui, qui est paru donc, chez Gauthier Langros. Donc, texte de James Matthew Barry et illustration de Régis Loujon, qu'on connaît quand même pas mal sur cette antenne.
Oui, on connaît bien ça, l'antenne voilà. De Plume de Brigand. Et puis, cette première couverture, qui fait on s'y reprend à deux fois pour savoir si c'est une photo ou un dessin quand même.
Oui, on s'y reprend à deux fois. Et puis, il nous paraît très jeune homme, la Peter Pan, sur cette couverture, alors que ça reste un enfant.
Voilà. Il fait adolescent à la mode, presque.
Oui, un peu dans son attitude, avec il arbore quand même fièrement là son couteau. C'est on voit quand même bien la cicatrice sur son visage. Donc une cicatrice, c'est quand même symbole de douleur et de traces, de souffrance quelque part. Mais voilà, il a pas l'air d'en faire tellement cas. Et voilà, moi il me semblait en fait que tout ce livre fonctionnait un petit peu comme ça dans les images aussi, sur le mode de la dualité. Avec des personnages où parfois on ne sait pas vraiment si c'est des enfants ou des adultes. Dans les couleurs aussi, enfin, il y a toute une première partie du récit qui est plus autour des rouges et des oranges, donc un petit peu plus lumineux. Puis une espèce de rupture dans les images avec après toute une série d'images très sombres. Et alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les personnages qui presque à mes yeux sont les plus sympathiques parce qu'ils sont les plus...
Les moins ambigus. Finalement.
Les moins ambigus, c'est Nana, donc la nourrice des enfants, qui n'a qu'un seul but dans la vie, c'est de bien s'occuper des enfants. Et le capitaine Crochet, parce que son seul but, c'est d'éliminer Peter Pan. C'est les deux personnages, pour moi, qui sont les plus clairs et qui sont presque les plus rassurants. Tous les autres, même Wendy, tous, ils ont tous un côté très, très, très double. Le père des enfants, il a un côté très, très, très enfantin. Il est capricieux aussi. Enfin, il est rongé par le désir de réussir. En même temps, il a des côtés... Il a besoin de sa femme et de ses enfants pour exister. C'est surprenant.
Peter Pan. Donc une édition qui vient tout juste
de sortir aux éditions Gauthier Langros, une très très belle édition.
L'appel de la forêt dans un style, on va pas dire similaire, mais en tout cas avec de très belles représentations graphiques et puis le texte original.
Oui, donc le texte original de Jack London et des images de Maurizio Quarello, qui est un illustrateur d'origine italienne. Donc là, c'est un livre grand aussi au niveau du format, moins épais que le Peter Pan, mais enfin, Maurizio Quarello, là, il a fait des peintures qui représentent essentiellement des personnages. Donc, l'appel de la forêt, est-ce qu'on raconte peut-être vaguement l'histoire?
On peut raconter l'intrigue.
Oui, l'intrigue. C'est l'histoire en fait d'un chien qui vit, donc Buck, qui vit tranquillement aux États-Unis, chez un maître qui s'occupe bien de lui. Il va au coin du feu, il va se baigner, il va se promener. Et puis un jour, il est vendu par un des hommes du juge. Il est vendu pour être emmené dans le Grand Nord, au Canada. C'est l'époque de la ruée vers l'or. Et donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des représentations de grands paysages enneigés,
des traîneaux, etc.
Voilà, des choses comme ça, parce que l'histoire est quand même vraiment très très forte. Il y a des choses dures, il y a des choses violentes, et des très très beaux sentiments aussi, plein d'amour dedans, mais des choses assez assez dures.
Mais pas du tout.
Maurizio Quarello, là, il a fait le choix de représenter des personnages et des personnages qui sont pas forcément en action, comme si notre attention était vraiment portée sur les expressions des personnages. Et des animaux, quand je dis personnages, c'est aussi des animaux, pour laisser l'histoire défiler dans notre tête et qu'on soit happé à un moment donné par quelque chose, mais pas de l'action. Donc des tableaux, des vrais tableaux, des peintures, des personnages avec des regards burinés, parfois tristes. Enfin,
tous les éléments après pour se reconstituer l'histoire dans la tête avec ces différents dessins représentatifs des hommes ou des animaux.
Je pense qu'on peut. Alors, on n'a pas forcément l'histoire et tout ce qui se passe, mais en tout cas, on a l'essentiel. On a quand même s'il représente des personnages. Alors, il y a des paysages. Hein, faut pas non plus dire qu'il y en a pas, mais on voit qu'il se passe des choses très dures dans un univers très dur. Donc, il y a l'ambiance qui est complètement restituée. Il me semble. Hein.
D'où la taille, le format de ce livre qui laisse vraiment de très très grandes images.
Ouais.
C'est impressionnant.
Ouais. Voilà, Buck, c'est un chien loup. Et le titre original de L'Appel de la forêt, c'est The Wild Call, l'appel sauvage. C'est pas tout à fait pareil que L'Appel de la forêt. Hein.
Non.
Eh ben non, L'Appel sauvage, c'est... Pour moi, c'est beaucoup plus double. C'est l'appel sauvage à l'intérieur de soi, puis l'appel de la nature.
C'est vrai, c'est des sens différents,
oui,
selon les traductions.
Oui, de sens différents.
Un deuxième très beau livre, donc
oui.
Jack London aussi assez récemment paru,
oui.
Cet appel de la forêt.
Il est paru aux éditions Sarbacane, dans la collection des grands classiques illustrés. Donc c'est une collection qui existe depuis un moment, et donc vraiment l'ambition est de donner à lire des textes intégraux, originaux mais traduits, avec des illustrations qui ont un côté très classique et en même temps quoi, un aspect aussi moderne, parce que ce sont des illustrateurs contemporains en fait qui illustrent. Donc forcément il y a de l'histoire, mais il y a aussi leurs références contemporaines dedans.
Voilà, donc au goût du jour. Eh bien, c'est sur cet appel de la forêt que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Lisa, pour ces zooms sur ces deux grands classiques de Noël, mais revus et puis remis avec une très belle forme.
Oui, des beaux livres à offrir, à s'offrir et à transmettre.
Merci beaucoup. Eh bien, on vous donne un rendez-vous l'année prochaine.
En 2013.
A priori,
ouh
comme
là
ça,
là.
Ça m'est. Eh bien, bonne fête de fin d'année. À
merci
très bientôt.
Merci vous aussi. Bonne fête à tous.
Retrouvez Plume de Brigand sur notre site radioroyant.fr avec la présentation des livres par Lisa et sur le site plumedebrigand.fr. À bientôt pour de prochaines chroniques.